Radio Prague, les informations.
Tomio Okamura portera plainte contre son élimination de la liste des candidats à l'élection présidentielle. Protestation contre la détention de deux ressortissants tchèques en Grèce. La caisse d'assurance maladie générale change de directeur. Le sénateur Tomio Okamura, rayé de la liste des candidats à l'élection présidentielle, a décidé de porter plainte auprès de la Cour administrative suprême. Il affirme que le procédé adopté par le ministère de l'Intérieur lors du décompte des signatures non identifiables figurant sur la pétition en faveur de sa candidature a été erroné et anticonstitutionnel. Il reproche aux employés du ministère d'avoir qualifié de non identifiables les signatures des personnes sans domicile fixe. Le ministère de l'Intérieur affirme cependant par la bouche de son attaché de presse Denisa Tchermakova d'avoir procédé conformément à la loi. Rayé de la liste des candidats à l'élection présidentielle par le ministère de l'Intérieur, Yana Bobochikova a déposé une demande au ministère afin que celui-ci corrige ses erreurs dans le décompte des signatures figurant sur la pétition en faveur de sa candidature. Elle a indiqué qu'elle n'entendait pas encore porter plainte auprès de la Cour administrative suprême. Plus de 200 personnes ont manifesté dans l'après-midi de ce lundi contre la détention de deux ressortissants tchèques soupçonnés d'espionnage en Grèce. Les organisateurs ont remis aux représentants de l'ambassade grecque à Prague une pétition signée par 21 000 personnes qui manifestent leur soutien à Martin Pezlar et Ivan Buchta, les deux tchèques risquent en Grèce des peines allant jusqu'à 20 ans de détention. C'est le chef de la section d'économie du ministère de la Santé, Zdeněk Kabáté, qui succédera à Pavel Horák au poste de directeur de la Caisse d'assurance maladie générale, Všeobecná zdravotní pojišťovna, BZP, qui est la plus grande caisse d'assurance maladie du pays. Le changement touchera également le conseil administratif de la Caisse d'assurance maladie générale, dont le président Marek Schneider sera remplacé par le vice-ministre de la Santé, Petr Nosek. Prague accueille à partir de ce lundi une conférence internationale consacrée à la restitution des biens confisqués aux victimes de l'Holocauste, soit entre 1933 et 1945. Jusqu'à mercredi, les représentants d'une cinquantaine de pays sont présents dans la capitale tchèque. La conférence est organisée par la Fondation européenne pour la mémoire de la Shoah, le Forum 2000 et le ministère des Affaires étrangères. La conférence devrait permettre d'évaluer les progrès accomplis depuis les conférences précédentes et notamment la dernière qui s'était déjà tenue à Prague en 2009. Météo. Comme dimanche, c'est un temps très nuagé qui continue de régner sur l'ensemble du territoire ce lundi, jour de la fête des Arthurs. Quelques faibles averses à caractère local sont possibles. Les températures ont varié entre 6 et 10 degrés pour les maximales. Aucune évolution notable n'est attendue dans les prochains jours. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter, qui cède maintenant le micro à Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, merci à Václav Richter pour son bulletin d'information. Avec trois candidats à la présidentielle éliminés de la course, après examen des signatures de soutien recueillies, le premier scrutin direct pour élire le chef de l'État va-t-il seulement avoir lieu ? Rien n'est moins sûr pour l'heure. On reviendra ensuite sur la 15e édition du Festival du film français. Radio Prague a rencontré le réalisateur Renaud Cohen, dont le film a été présenté dans la capitale tchèque. Tout ceci, ce sera avant le sport en deuxième partie d'émission. Bonne écoute de ce programme. La République tchèque va-t-elle connaître une vacance du pouvoir à la fin du mandat de Václav Klaus ? Si la question reste pour l'heure sans réponse, c'est néanmoins un scénario plausible suite à l'exclusion vendredi de trois candidats à la première élection présidentielle au suffrage universel direct. Ces candidats envisagent cependant sérieusement de faire appel de cette décision. Yana Bobochikova, Tomio Okamura et Vladimir Lori, tels sont les noms des trois candidats éliminés de la course à la présidentielle par le ministère de l'Intérieur chargé de contrôler les pétitions rassemblées rassemblant les signatures nécessaires à leur participation à ce scrutin. Selon le ministère, les trois aspirants à la plus haute fonction de l'État n'ont pas réussi à réunir un nombre suffisant de signatures identifiables de supporters de leur candidature. Bien qu'ayant présenté au ministère des listes comportant plus de 50 000 signatures, les organes de contrôle y ont trouvé un nombre trop élevé de signatures qui n'étaient pas identifiables. L'homme d'affaires Vladimir Lowry a fait savoir dès vendredi qu'il allait faire appel de la décision auprès de la Cour administrative suprême, de même que le sénateur Tomio Okamura ce lundi. La présidente du parti Souveraineta, Yana Bobošíková, a annoncé quant à elle avoir déposé auprès du ministère une demande de rectification des erreurs évidentes, fin de citation, lors du décompte des signatures apposées sous sa pétition. Du côté des analystes politiques, on observe cette agitation avec un certain désabusement comme un énième rebondissement au sein d'un monde politique décrédibilisé. Jiří Pehe, politologue.
J'ai bien peur que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui soit honteuse. Bâcler cette loi sur laquelle sont braqués les regards du public et de l'étranger, c'est vraiment quelque chose qui dépasse les bornes sur la scène politique tchèque. Et malheureusement, c'est une habitude. Les législateurs préparent fréquemment des lois qui sont retravaillées plus tard ou carrément envoyées directement à la Cour constitutionnelle. Dans le cas présent, ils auraient dû faire davantage attention. J'ai bien peur qu'en raison de cette loi mal préparée, l'élection présidentielle soit reportée de quelques semaines, voire quelques mois.
Si pour l'heure la plainte de Vladimir Lowry n'a été déposée qu'à la Cour administrative suprême, d'aucuns craignent un retard encore plus important du processus dans le cas du lancement d'une procédure auprès de la Cour constitutionnelle. On écoute la sénatrice indépendante Eliška Wagnerová, ancienne vice-présidente de la plus haute instance de justice en République tchèque. Si un candidat portait plainte auprès de la Cour constitutionnelle, j'aurais du mal à imaginer que l'on puisse continuer de manière légitime tout le processus électoral. Du côté du ministère de l'Intérieur, on réfute les accusations de manipulation ou d'erreur lors du décompte des signatures. Certains experts pointent du doigt en effet la méthodologie utilisée à cet effet. Derrière les critiques multiples qui fusent face à ce qui, une fois de plus, s'avère être un fiasco en termes de fiabilité du système politique, nombreuses sont les voix qui s'élèvent pour critiquer le principe même du changement du système d'élection du président de la République, autrefois élu par le Parlement. On écoute le politologue Bohumil Doležal.
Il y a un problème concret dans cette loi, c'est que le soutien des signataires des pétitions est dans une large mesure virtuel. La seule chose qui est vérifiée, c'est si les personnes qui ont apposé leur signature existent réellement, et les personnes qui ont collecté les signatures ne peuvent pas le contrôler elles-mêmes. Le problème, c'est que cette loi existe et que le processus électoral est enclenché. Ce qui va être examiné par la Cour administrative suprême, c'est si tout s'est déroulé conformément à la loi. Je ne vois pas de raison qu'il n'en soit pas ainsi. Le fond de la question reste toutefois, cette élection à scrutin direct était-elle vraiment utile? Est-ce une meilleure solution que le système précédent?
En attendant les arrêts de la Cour administrative suprême, le premier tour des élections présidentielles est toujours fixé aux 11 et 12 janvier prochains, jusqu'à nouvel ordre. La 15e édition du Festival du film français se déroule à Prague, à Brno et à České Budějovice jusqu'au mercredi 28 novembre. Le réalisateur Renaud Cohen y a présenté son nouveau film intitulé « Au cas où je n'aurais pas la palme d'or », une comédie d'inspiration autobiographique qui raconte les difficultés de Simon, un cinéaste quadragénaire qui se croit gravement malade, à tourner après une longue pause son deuxième film, le film de sa vie. Renaud Cohen est au micro de Magdalena Rosinkova.
En réalité, après mon premier film, Quand on sera grand, donc, qui avait plutôt pas mal marché, qui avait une bonne critique, mon producteur m'a fait signer un contrat pour écrire un premier scénario, puis un deuxième, puis un troisième, qui ne se sont pas faits.
Comme dans le film.
Comme dans le film, là, pour ça j'ai respecté, j'ai pris tout ce qui était impressionnant dans ma vie. Et donc, en réalité, le film qui est là, j'ai pas mis 10 ans à le faire, mais c'est au bout d'un certain temps, il y a à peu près 10 ans entre les deux, j'ai, au bout du troisième scénario écrit, quand mon producteur m'a annoncé qu'à nouveau, il pensait ne pas pouvoir le produire pour telle et telle raison. Là, je me suis un peu révolté, je me suis dit, bon, parce qu'en général, quand on est cinéaste, on dit que le cinéma coûte beaucoup d'argent, donc on peut pas, comme contrairement à un écrivain, fabriquer tout seul, a priori, son film. Et moi, je me suis dit, bon, maintenant, si au bout de 10 ans, je fais pas mon propre film, maintenant, Enfin, si je ne le fais pas, je suis mort comme cinéaste de fiction. Je faisais du documentaire, mais pas de fiction. Et j'avais pas envie de mourir tout de suite, en tout cas. Et donc, j'ai commencé avec des amis bénévoles à entreprendre ce projet. Donc, j'ai d'abord mis de l'argent à moi. On a tourné dans ma maison. Puis ensuite, au fur et à mesure, j'ai réussi à trouver de l'argent. Je me suis, alors que j'avais jamais fait ça de ma vie, mis dans le rôle du producteur, de l'acteur, etc. Donc, voilà.
Et cette histoire-là, donc, d'un cinéaste qui, comme vous, un peu, se trouve à écrire plusieurs scénarios qui sont refusés, qui est désespéré, et qui, en fait, est poussé à tourner un film parce qu'il il se croit malade, il croit avoir un cancer. Donc, comment avez-vous construit cette histoire ?
Non, alors là, par exemple, dans la réalité, il m'est arrivé il y a quelques années de faire un pari, mais pas dans les mêmes conditions que le film, et de me raser la tête et de découvrir que j'avais une bosse. Et donc, j'ai eu peur pendant 48 heures, disons. Et puis ensuite, quand j'ai décidé, ça c'était il y a 4-5 ans, et puis quand j'ai décidé de faire ce film, j'ai essayé d'utiliser un événement que j'avais vécu pour que ça serve de déclencheur. En réalité, c'est pas du tout le déclencheur de ce film-là. Je sais pas très bien quel est le déclencheur. Un jour, je me suis dit, maintenant, il faut tourner. Ça est devenu un impératif. Mais dans l'histoire, j'ai essayé d'utiliser quelque chose de concret. Et donc, j'ai pris cet événement qui n'avait pas vraiment à voir, mais qui, pour montrer juste que, qu'à un moment, il faut prendre son destin en main. Et d'ailleurs, au-delà même des cinéastes, je pense que, enfin, ça peut s'adresser à n'importe qui. Tous les gens qui ont des passions, des choses importantes à faire à un moment, peuvent décider de les réaliser.
Et est-ce qu'on peut dire que c'est de plus en plus difficile de faire des films justement à cause des financements ?
C'est compliqué parce que je regardais justement, il y a quelques jours j'étais chez un ami scénariste, il montrait un rapport sur les scénarios qui disait qu'en France on produit 240 films par an. Donc c'est quand même énorme, c'est quasiment autant qu'aux États-Unis, je crois, où on en produit 270. Donc, moi par exemple, enfin il y a d'un côté le film d'auteur très dur, très âpre, très réaliste comme ça, qui obtient, disons, l'avance sur recette en général, vous voyez, des aides de l'État qui permettent de faire le film. Et de l'autre côté, des films commerciaux qui coûtent très cher et qui sont type Astérix, Obélix, mais ou d'autres comédies comme ça. Et moi, en fait, mon créneau, ça a toujours été la comédie d'auteur, ce qui est un peu hors du système, en fait. La comédie d'auteur, c'est une comédie, mais qui appelle pas forcément des grandes vedettes, ou c'est pas forcément une comédie un peu grosse, un peu grasse, et c'est pas évident de trouver sa place. Moi, je suis un peu entre les deux. Et en fait, avant, dans le système français, il y avait ce qu'on appelait les films du milieu, c'est-à-dire des films avec moyens, un budget moyen, qui était... se faisait, mais en fait maintenant on est dans une espèce de radicalisation où il y a les films vraiment subventionnés, mais qui sont tellement durs pour le public, et puis il y a les films commerciaux, sans trop caricaturer, mais c'est un peu ça. Et donc moi je suis un peu entre les deux, c'est un peu ça mon problème.
Pour la première fois depuis 2004, deux clubs tchèques seront encore en course en Coupe d'Europe au printemps prochain grâce à leurs résultats nuls 1-1 obtenus jeudi dernier respectivement contre Lyon à domicile et à Coimbra au Portugal. Le Sparta Prague et le Viktoria Plzeň ont validé leur qualification pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Présent à l'Etna, le stade du Sparta, Guillaume Larguet revient sur cette soirée européenne.
Sport en République tchèque.
Certes, ce n'est pas la Ligue des Champions et certes, ce n'est que la Ligue Europa, la Coupe du Pauvre, comme certains aiment appeler l'ancienne Coupe UEFA. Mais justement, avec ces moyens financiers très limités, les clubs tchèques font eux aussi plutôt figure de parents pauvres sur la scène européenne du ballon rond, et ce depuis plusieurs années déjà. Alors, pourquoi le football tchèque ne devrait-il pas se réjouir de voir deux de ses clubs sortir de la phase de poule de cette Ligue Europa, et pourquoi devrait-il bouder son plaisir sous prétexte que certains grands pays, et la France en premier lieu, considèrent cette compétition au mieux comme un lot de consommation ? Autant de questions que les joueurs du Viktoria Plzeň et du Sparta de Prague ne se sont pas posées jeudi dernier au coup de sifflet final de leurs matchs respectifs. Avant ceci, les deux équipes tchèques, deuxièmes de leur groupe, s'avaient savaient qu'un résultat nul leur suffisait pour valider leur qualification pour les 16e de finale. Et ce résultat nul, dans les deux cas, sur le même score de 1 partout, c'est précisément ce que le Victoria et le Sparta ont obtenu à Coimbra au Portugal pour Polzen et à domicile contre Lyon pour le Sparta. Même auteur d'une faible prestation, surtout en première mi-temps, les Pragois ont donc décroché l'essentiel, ce qui suffisait amplement à leur bonheur, comme l'admettait leur entraîneur Vítězslav Nalavička. Nous savions après le tirage au sort que nous n'étions pas les favoris du groupe. Nous avions quand même comme adversaire Lyon, une équipe habituée à la Ligue des Champions, et l'Athletic Bilbao, finaliste de la dernière Ligue Europa. Il y avait aussi une équipe israélienne, mal connue mais pleine d'ambition. Notre premier objectif était donc d'engranger de l'expérience contre ces équipes et faire de notre mieux. Cette qualification, c'est un peu du bonus, surtout avant même notre dernier match de groupe.
Pokusit se uhrát co nejlepší výsledek a tohle to je bonus navíc, mít potvrzený postup ještě před posledním zápasem základní skupiny.
Vainqueur de ses 4 premiers matchs de poule et déjà assuré de poursuivre son parcours en Ligue Europa au printemps prochain, l'Olympique lyonnais, qui avait battu le Sparta 2-1 lors du match aller en France en septembre, était venu à Prague avec des objectifs autres que celui plus vital de son adversaire du jour. N'empêche, à l'issue de la rencontre, l'entraîneur lyonnais n'en était pas moins satisfait du partage des points. Rémi Garde explique pourquoi.
Très content d'obtenir cette première place à l'avant-dernière journée. Surtout dans les circonstances dans lesquelles on l'obtient aujourd'hui par rapport au rajeunissement de l'équipe, c'est une belle satisfaction. Je suis passé un peu par tous les sentiments, comme souvent dans les matchs. Non, j'ai apprécié le jeu de l'équipe. Les conditions, le terrain étaient très très difficiles pour avoir un jeu de passe comme on a l'habitude de l'avoir. Donc on a été obligé d'allonger un petit peu plus qu'habituellement. Mais bon, j'ai beaucoup aimé le comportement de mon équipe, la rigueur tactique quand on n'avait pas le ballon, et puis les efforts, l'état d'esprit. Il y avait beaucoup d'ingrédients qui me plaisent dans cette équipe, qui était très rajeunie encore une fois. Les jeunes joueurs ont saisi leur chance, ils ont montré que le travail payait, et je suis très content pour eux.
Le sentiment de satisfaction de Rémi Garde était également partagé par le président de l'OL, comme l'a confié Jean-Michel Aula au micro de Radio Prague.
Assurer la première place et par ailleurs, on le sait, ça a permis de faire tourner l'effectif puisqu'on a un match capital dimanche à Toulouse, puis un autre match capital contre Marseille mercredi. Donc c'est effectivement une très belle opération. Puis on a vu à l'œuvre la future génération OL dans une configuration très, très intéressante parce que la qualité du jeu était intéressante. Donc voilà, c'est vraiment une bonne journée pour l'OL, pour l'ensemble du club.
Pas déçu de ne pas faire un parcours sans faute dans cette phase de groupe ?
Vous savez, c'est toujours bien sûr le rêve de pouvoir faire un parcours sans faute, mais c'est vrai aussi que cette équipe du Sparta de Prague jouait pour la qualification, pour la deuxième place. Elle jouait chez elle, elle a réussi de très bons matchs puisqu'elle a accroché et battu Bilbao, qui est une très bonne équipe. Elle avait souffert contre nous au match aller, je pense que le score aurait pu être plus lourd. Donc on va dire que c'est un match nul à l'extérieur en Coupe d'Europe qui permet de toujours prendre un certain nombre de points. Donc non, je crois qu'il faut vraiment savourer, compte tenu de la configuration de l'équipe, ce point qui ne permettra pas de faire un sans faute. Mais si on arrive le dernier match chez nous à gagner, ça fera 5 victoires, 1 nul, c'est déjà exceptionnel.
Après le match aller, Rémi Garde, c'était un peu plein de l'engagement tchèque. Aujourd'hui, c'était peut-être un peu différent. Qu'avez-vous pensé de cette équipe tchèque ?
Écoutez, elle m'a fait moins d'impression qu'au match aller où effectivement elle avait fait tout d'abord un pressing extrêmement important et puis avec un engagement physique vraiment de tous les instants. Bon, c'est vrai aussi qu'il y avait aujourd'hui un arbitre qui est réputé pour appliquer à la lettre le règlement, pour distribuer quand il le faut les cartons jaunes, voire les rouges. Et je crois que ça a calmé un certain nombre d'ardeurs pour faciliter un jeu qui a été effectivement plus fluide qu'au match aller. Donc je pense que tout le monde est gagnant. Bon, il y a simplement Johan Gourcuff qui a une petite blessure à la cheville, mais ceci étant, je ne pense pas que ça soit trop grave. Et donc, on repart sans blessé, ce qui est formidable.
Johan Gourcuff, justement, a été un des joueurs clés du match. Auteur d'un coup franc sur la barre transversale en première période, le meneur de jeu international français, par lequel beaucoup de ballons sont passés, a délivré la passe décisive sur le but lyonnais. Un but inscrit par le jeune Yacine Benzia, 18 ans, en tout début de deuxième mi-temps, quelques secondes seulement après le retour des vestiaires. Et un but qui, malgré l'égalisation pragoise, 7 minutes plus tard, a finalement suffi au bonheur lyonnais, comme le reconnaissait Johan Gourcuff.
Ouais, c'est bien, on était venu ici soit pour faire match nul, soit pour gagner, pour pouvoir être sûr de la première place. Donc voilà, c'est satisfaisant. Les conditions de jeu étaient quand même difficiles ce soir pour jouer le football que l'on souhaite. Donc on s'est adapté à la pelouse et au terrain. Et voilà, on a essayé de ne pas prendre trop de risques dans la construction. Et puis on a essayé d'être réaliste. Sur nos offensives, donc voilà, satisfait du match nul, même si 1-0 on aurait pu essayer de préserver ce résultat, ça aurait été bien.
L'état de la pelouse, il est vrai particulièrement mauvais, est revenu dans toutes les réactions d'après-match. Et selon Rémi Garde, la piteuse qualité de la surface de jeu a fortement influencé le déroulement du match.
Je pense que eux comme nous, je le répète, je me répète un peu, il est très difficile de développer un football de qualité sur un terrain comme ça. J'ai échangé un petit peu avec mon confrère du Sparta et il me confiait que c'était souvent comme ça en cette période de l'année. Donc c'est une équipe qui a joué assez long aujourd'hui et qui a accompagné sur les deuxièmes ballons. Je crois qu'on était un peu plus bas qu'au match aller, donc le match était un petit peu différent, mais c'est une équipe qui est assez bien structurée aussi et qui est performante dans les duels. Voilà. Après, c'est vrai que ce soit eux qui passent plutôt que Bilbao, c'est une petite surprise bien évidemment par rapport aux résultats notamment de Bilbao de l'année dernière. Mais vous savez, le football c'est remis en question à chaque match, sur chaque saison. Et s'ils sont passés, c'est qu'ils l'ont mérité tout simplement.
Même sans être flamboyant jeudi, le Sparta de Prague accompagnera donc Lyon lors du tirage au sort des 16e de finale de la Ligue Europa. Avant cela, il lui restera encore un match à disputer à Bilbao lors de la 6e et dernière journée de la phase de poule. Quant à l'OL, qui avait déjà affronté le Sparta tant en Ligue des Champions masculine que féminine ces dernières saisons, il est revenu de Prague une nouvelle fois avec un bon souvenir. Le mot de la fin à l'intarissable Jean-Michel Aulas.
Ouais, c'est une très belle ville. Les dirigeants nous ont magnifiquement accueillis et c'est vrai que bon, tant vis-à-vis de l'équipe féminine qu'avec l'équipe masculine, ça nous a beaucoup, enfin, très souvent bien réussi. Donc voilà, mission accomplie ce soir.
C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague. Podcastez-nous, écoutez-nous en streaming ou lisez-nous. Vous le savez, ces émissions, ce sont les vôtres. Et retrouvez-nous sur notre site internet, le www.radio.cz/fr. Merci de votre fidélité. Bon vent à Roy.